CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Grand Rodez.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du mag Grand Rodez, avec nous aujourd'hui pour une petite demi-heure, Patrick Abri, directeur des éditions Xiaopan, des éditions basées à Figeac. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Tout va bien ?
Tout va très bien, merci.
On va passer cette demi-heure avec vous aujourd'hui dans le magazine, le mag du Grand Rodez, et parler de vos éditions Xiaopan et d'une exposition qui se tient à la médiathèque de Rodez depuis plusieurs jours maintenant et jusqu'au 31 mars. Une exposition dont vous êtes à l'initiative sur la bande dessinée chinoise, le manhwa, je prononce bien.
C'est ça.
Voilà, une bande dessinée que l'on va découvrir ensemble et dont vous êtes le pionnier, l'inventeur, le promoteur. Qu'est-ce que vous préférez comme mot ?
Le pionnier va très bien, l'inventeur c'est un petit peu prétentieux quand même.
En tous les cas, c'est vous qui nous l'avez fait découvrir en France et c'est vous qui est non seulement le fait découvrir mais travailler à son développement, à sa construction et à sa connaissance par le plus grand public partout en France, partout dans le monde.
Oui, tout à fait, à sa promotion, surtout en dehors de Chine, puisque je suis pratiquement la seule maison d'édition aujourd'hui à promouvoir et exporter la bande dessinée chinoise, en particulier celle des nouveaux auteurs de la nouvelle génération, qui est très, très particulière et très prometteuse.
Voilà, le manhwa, la bande dessinée chinoise qui n'a pas grand-chose à voir, voire même rien à voir, vous êtes d'accord avec le manga que tout le monde connaît ?
Oui, les codes sont très différents, les graphismes sont très différents. Il y a certainement des influences quelque part, mais d'une façon générale, c'est une bande dessinée qui est à part de la bande dessinée américaine ou de la bande dessinée franco-belge également.
Patrick Abri, directeur des éditions Xiaopan, est donc notre invité dans le mag du Grand Rodez aujourd'hui. On va parler de bande dessinée chinoise, le manhwa, c'est comme ça qu'il faut dire. Et on va tout de suite faire une première pause musicale avec un autre chanteur, pas du tout chinois, Carlos Santana.
Easy to tell, it was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And the voices rang like the angels sing. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, away, away, away. And the voices rang like the angels singing.
singing, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, and we danced on into the night.
On parle de bande dessinée chinoise, mais pas seulement, avec notre invité aujourd'hui dans le Mag du Grand Rodez, Patrick Abri, et le directeur des éditions Xiaopan, basé à Figeac, tout près de Rodez, pas si loin en tous les cas, et à l'occasion d'une exposition qui se tient sur la bande dessinée chinoise à la médiathèque de Rodez jusqu'au 31 mars prochain. Première question que j'ai envie de vous poser, Patrick. Le manuel, la bande dessinée chinoise, définition ?
Il n'y a pas de définition particulière, c'est la bande dessinée, comme on le trouve dans d'autres pays. Elle a cependant une histoire un peu particulière, puisque la bande dessinée a servi, notamment sous le régime de Mao, à la propagande du régime et à la propagation des idées occidentales à travers le filtre du régime. Donc ça a été pendant 20-30 ans un médium extrêmement riche et extrêmement puissant, puisqu'il était très largement diffusé, y compris jusque dans les campagnes. Et à la fin de la révolution culturelle, donc en 76, tout s'est effondré. Et les dessinateurs, qui étaient en fait des fonctionnaires, hein, c'était pas vraiment des artistes, c'était plus fonctionnaires qu'artistes, pour la plupart, ont cessé de dessiner. Et il y a une nouvelle génération d'artistes qui est née après, donc cette révolution culturelle, qui est celle qu'aujourd'hui j'exploite, enfin avec laquelle je travaille, qui elle fait table rase un peu sur le passé et qui s'inspire plutôt des codes européens, américains, voire japonais, en essayant de se les approprier pour en faire une bande dessinée qui leur soit propre et qui soit 100% chinoise.
Alors parlons de cette bande dessinée chinoise, le manhwa, comme on dit, traduction de manga en chinois, en fait.
Oui, c'est la même. De toute façon, les Japonais ont pris l'écriture chinoise et ont pris la langue chinoise à l'origine. Donc c'est la langue chinoise qui est la plus vieille. Oui, c'est la même racine. On trouve la même chose en Corée avec manhwa. D'accord. Ça veut dire bande dessinée.
Alors en revanche, si c'est la même racine, quand on regarde les dessins, entre le manga et le manhwa, en tout cas vous nous proposez aux éditions Xiaopan, ça n'a pas forcément à voir.
Alors ça n'a pas forcément à voir, mais c'est plus une volonté éditoriale qu'un reflet exact du marché chinois. Aujourd'hui, le marché chinois est centré presque exclusivement sur des publications pour la jeunesse, parce qu'il y a une censure qui est relativement forte. Et un marché qui est en fait relativement jeune, puisque le premier magazine de bande dessinée est sorti en 93, donc ça a 18 ans. Bon, ils ont, je veux dire, 50 ans de retard, sans que ce soit péjoratif, mais ils ont 50 ans de retard par rapport à la maturité des Japonais, des Américains ou des Français, quoi, puisque tout cela ont démarré dans les années 20 ou dans les années 30 et ont vraiment explosé après la guerre autour des années 50. Ils ont, aujourd'hui, sur leur marché intérieur, ils essayent en priorité, les éditeurs essayent en priorité de faire de la copie de manga. Alors, chose que je n'ai pas encore précisé, mais les éditeurs en Chine sont tous nationalisés. Il n'y a pas d'éditeur privé.
D'accord.
Donc il n'y a pas d'initiative privée, il n'y a pas vraiment d'éditeur comme moi qui va prendre le risque d'aller sur un auteur, d'investir dessus, de faire sa promotion. Ils prennent le moins de risques possible et cherchent à coller le plus près possible du marché. Et en regardant ce que font leurs voisins au Japon et en regardant le succès du manga, ils se disent c'est ce qu'il faut pour faire en Chine, c'est du manhwa. Moi, j'ai pris le parti inverse, qui est justement de ne pas faire comme tout le monde, et d'essayer de mettre en avant des artistes qui ont des particularités graphiques et qui ont, si possible, des choses à dire qui sont pas celles qu'on trouve sur le marché chinois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les nouveaux projets sont des projets qui n'existent pas en Chine.
Et ce que l'on peut voir notamment à l'exposition de la médiathèque de Rodez, les planches proposées, c'est plutôt, c'est pas Tintin et Milou, c'est plutôt de la bande dessinée adulte, voire même un télo.
Oui, pour la même raison que j'évoquais précédemment, c'est que je cherche pas à prendre ce qui existe sur le marché, qui est de la bande dessinée pour les jeunes, qui est déjà largement battue et rebattue sur le marché français. Je cherche justement à montrer des choses qui sont particulières. Donc les deux expositions, parce qu'il y a deux expositions qui sont couplées à la médiathèque de Rodez. Il y en a une sur un album qui s'appelle Chronique de Pékin, qui est un projet qu'on a monté entièrement avec 10 artistes, à l'occasion des Jeux Olympiques, où on a demandé aux artistes de raconter une histoire liée aux mutations de la ville de Pékin, en relation avec les Jeux Olympiques, ou au comportement des gens par rapport aux phénomènes sportifs. Donc il y a 10 histoires, plus des illustrations. Et le deuxième album, lui, est encore plus caractéristique, puisque c'est le dernier qui est sorti chez nous, qui s'appelle Maruta 454. Alors, c'est un titre japonais. Maruta voulant dire cobaye, enfin bio et cobaye en japonais. Alors lui est inspiré d'une histoire vraie. Elle était scénarisée par un scénariste québécois, mais dessinée par des Chinois, et raconte la vie dans les camps d'expérimentation japonais en 1934, puisque les Japonais ont envahi le nord de la Chine dans les années 30, et ils ont créé des camps, soi-disant des camps de travail, mais qui étaient en fait des camps dans lesquels ils expérimentaient les armes bactériologiques et chimiques sur des cobayes chinois.
Donc il y a ça, des qualités, vous le disiez, notamment la nouveauté, l'originalité,
le graphisme,
le dynamisme chinois, mais un inconvénient, donc un problème de scénario.
Alors, un problème de scénario qui est structurel à la Chine, on va dire. Bon, les Chinois, même ceux de la génération d'auteurs que j'ai dites, qui, je l'ai dit, sont nés presque tous après les années 75. Benjamin, qui est pratiquement le plus vieux, a 37 ans aujourd'hui, il est né en 74. Ils ont entre 20 et 35 ans. Ils ont encore été formatés à l'école comme des bons Chinois. Donc, il y a un certain nombre de règles, de choses qu'il faut pas dire, de problèmes dont on ne peut pas parler. D'accord. Et même quand on leur donne carte blanche, ils n'arrivent pas à sortir leur trip et à vraiment dire tout ce qu'ils ont envie de dire ou tout ce qu'ils pourraient dire par rapport à leur vie, par rapport à leur quotidien. Et mon gros problème, c'est justement d'arriver à leur faire cracher ça. Donc, j'ai pris une voie un peu médiane qui est de les mettre en relation avec des scénaristes occidentaux pour qu'ils puissent apprendre un peu à l'école du travail au jour le jour, pour qu'ils puissent apprendre un peu comment on peut faire. On se rend compte qu'ils ont des vraies lacunes dans l'histoire elle-même, mais aussi dans la façon de le raconter. Je veux dire, dans la construction d'une planche, il y a régulièrement des auteurs qui vont faire des grosses erreurs, quoi. Changer de luminosité alors qu'on change pas de temps dans la journée. Ils vont changer d'angle de vue, mais le décor il est plus le même. C'est-à-dire que vous retrouvez plus les mêmes détails, même si vous faites pivoter votre décor. Enfin, il y a des tas d'erreurs. Ils ont, il y a une grosse lacune à ce niveau-là. Donc, ils ont le potentiel graphique, savoir dessiner. Ça, les Chinois savent dessiner. Ils apprennent à dessiner dès qu'ils sont tout petits. Ils tiennent le pinceau dès l'âge de 5 ans quand ils apprennent à écrire. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a une très forte tradition graphique en Chine. Donc, il y a aucun souci de ce côté-là. Des bouquins d'art, il y en a plein les librairies. Donc, c'est clair qu'ils ont une vraie culture artistique. Mais l'adapter à la bande dessinée, c'est quand même un système de narration particulier et qui a mis longtemps à mûrir et à devenir très puissant. Et là, pour le moment, ce que je disais tout à l'heure, ils sont quand même en retard et ils ont ce retard à combler.
Cette bande dessinée chinoise dont vous êtes le promoteur, hein, je le rappelle, Patrick Abri, directeur des éditions Xéopone, comment elle est reçue dans le milieu de la bande dessinée traditionnelle, entre guillemets, en France notamment, en Belgique?
Alors, ce qui ressort de façon unanime, c'est la qualité graphique des auteurs. Ça, on a marqué les choses. On a des auteurs comme Benjamin, dont je citais tout à l'heure, qui sont à la limite entre la bande dessinée et l'art moderne, et qui est maintenant en train même de basculer plus sur l'aspect art moderne. Le graphisme, là, on fait l'unanimité avec des gens qui ont vraiment des styles particuliers, c'est-à-dire qui ressemblent à rien d'autre, quoi. Ils ont une patte d'artiste qui leur est propre, qu'on reconnaît quand on voit leurs œuvres, comme les grands artistes. Et il y a un vivier de grands artistes en Chine extraordinaire, dont certains ne savent pas faire de la BD, ne sauront pas faire de la BD, n'y arriveront pas, mais qui continueront à faire des grands illustrateurs avec lesquels on peut travailler sur d'autres projets. On pourra en parler tout à l'heure. Moi, j'initie des projets avec les auteurs, justement, pour mettre en valeur leur qualité graphique. Et ce que disent aussi tous les lecteurs, les professionnels comme lecteurs, c'est qu'effectivement, le point faible, c'est le scénario. Donc, il faut qu'on arrive à remonter le scénario pour avoir une qualité qui soit vraiment au top. Et il y a une vraie attente du public aujourd'hui pour avoir de la bande dessinée asiatique qui se démarque de ce qui est aujourd'hui sur le marché, que ça vienne de Corée ou du Japon.
Et les albums, les bandes dessinées chinoises que vous éditez, elles sont faciles à trouver?
Alors, on est distribué d'une façon nationale, on a un distributeur national, on a changé l'année dernière pour des raisons diverses, mais oui, vous pouvez le commander à votre libraire, vous pouvez le trouver sur Internet, on a une boutique en ligne.
www.xiaopan.com.
Exact, d'accord. Voilà, tout à fait. Et cela dit, très peu de libraires les ont en stock, à part quelques-uns qui nous défendent de façon forte, puisqu'il y en a qui ont vraiment eu le coup de foudre pour nos collections, donc qui ont à peu près tout ce qu'on a. Sinon, les libraires étant surchargés d'albums, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que l'année dernière, il est sorti 5100 nouveaux titres en France. C'est impossible à faire entrer dans une petite librairie, donc les libraires sont obligés de faire des choix, et ces choix se font quelquefois à notre détriment. Donc c'est plus facile de les trouver sur Internet que de les trouver chez son libraire.
Et actuellement, votre catalogue, c'est combien de titres?
Alors, on a publié plus de 70 titres depuis le début, mais on a élagué notre catalogue il y a 2 ans et il nous en reste 25.
Bon, il y a de quoi faire. On va continuer de parler avec vous, Patrick Abri, de cette bande dessinée chinoise, le Manhua, dont vous êtes le pionnier, et à l'occasion d'une exposition qui se tient à la médiathèque de Rodez jusqu'au 31 mars prochain. C'est l'heure de notre seconde pause musicale. Ce coup-ci, on y va en français avec Calogero. A tout de suite en CFM.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange, je suis en tête à tête avec un ange. En apesanteur, pourvu que les secondes soient des heures. En apesanteur, pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. Elle arrange ses cheveux, j'ai le cœur juste au bord des yeux, et sans la regarder je sens la chaleur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.
On parle de bande dessinée chinoise dans le Mag Grand Rodez aujourd'hui. Avec nous, Patrick Abri, pionnier de la discipline et directeur des éditions Xiaopan, basé à Figeac, à l'occasion notamment d'une exposition sur le manuel à la médiathèque de Rodez jusqu'au 31 mars. On a découvert ensemble, Patrick, le manuel, ses particularités. On va maintenant s'intéresser un petit peu à ses développements éventuels, parce que quand on pense à bande dessinée, quand tout va bien, derrière, il y a dessin animé, film d'animation. Vous y pensez ?
Bah, on y pense fatalement, mais aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'histoire ou de série qui soit vraiment phare ou qui puisse vraiment intéresser des grands studios pour le mettre en animation, soit en film, à l'exception de l'album qui s'appelle Orange, qui a été fait par Benjamin, qui est pour moi une histoire très très forte, pour laquelle un jeune réalisateur nous a contacté avec l'envie d'en faire un moyen métrage. Donc pour le moment, on est en train de discuter du projet, on attend qu'il ait trouvé des financements, puisqu'on sait que dans le cinéma, c'est comme dans d'autres domaines culturels, il faut commencer par avoir les sous avant de faire quelque chose. Et on sera prêt pour travailler là-dessus.
Alors en revanche, la qualité du graphisme que vous nous expliquiez il y a quelques minutes et que j'ai pu apprécier moi-même à la médiathèque de Rodez, ça intéresse du monde en dehors de la bande dessinée, la publicité, les clips vidéo, avec une artiste, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Alors, on a travaillé, enfin, depuis 3 ans, je m'efforce justement de faire connaître le potentiel graphique de ces artistes à d'autres domaines que la bande dessinée pure. Donc, on a effectivement travaillé pour la publicité. Benjamin et Song Yang sont deux auteurs, d'ailleurs, qui sont exposés là. On fait une campagne d'affiches pour les grands magasins milanais, la Rinascente, hein, l'équivalent du printemps. Ils ont fait des superbes affiches. On a travaillé pour Publicis à l'époque. Et puis, on a travaillé sur d'autres projets. Et là où on a fait le plus de choses, c'est dans le monde de la musique, puisqu'on a démarré en 2009 avec un clip pour une jeune chanteuse qui s'appelle Jenali.
Jenali.
Ouais, qui vient de sortir maintenant son deuxième CD. Et y a, sur le premier CD qui est sorti début 2010, il y a eu trois clips qui ont été faits, tous les trois illustrés par des dessinateurs chinois que j'ai moi-même amené donc au réalisateur et à la maison de disques Universal.
Des clips qu'on peut retrouver sur YouTube, des trucs j'imagine.
Que vous pouvez retrouver sur YouTube, Jenali, J-E-N-A, plus loin, L-I-L-E-E, qui malgré son nom n'est pas une chinoise, n'est pas c'est une française adoptée d'origine chilienne. Et elle a lancé une sorte de nouvelle mouvance qui s'appelle le Emo R&B, donc avec Emo pour émotion. Et d'autres artistes suivent. Et depuis qu'on a fait ce projet-là avec Universal, on était sollicité pour d'autres choses. Donc on est en train de réaliser aujourd'hui un manga d'une centaine de pages en noir et blanc pour la promotion d'un prochain groupe, toujours dans le Emo R&B d'ailleurs. Le groupe s'appelle Eskimo. Mm-hmm. Et l'album doit sortir au mois de mai. Donc on est en train de travailler sur le dessin à l'heure actuelle. Et j'ai d'autres projets aussi, notamment un jeu sur Facebook basé dans la musique avec donc que des illustrations de musiciens, d'instruments de musique, etc., un jeu de rôle. Et puis il y a d'autres choses qui sont en train de mûrir du côté d'Universal, puisque on apporte un style différent, quelque chose de très frais, et tout le monde s'y retrouve. Et finalement on voudrait développer un peu cet aspect là de la collaboration entre les auteurs et puis d'autres métiers.
Ce jeu sur Facebook, donc vous me parliez, alors tout le monde est sur Facebook maintenant, donc ouais. Ça, c'est intéressant, c'est facile d'accès, c'est pour quand?
L'objectif est de le mettre en ligne à partir du mois de septembre. Donc pour le moment, c'est top secret, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais okay. Voilà, c'est un jeu, ça sera un jeu de rôle dans le monde de la musique.
Et ben, on va surveiller ça de très très près. Concernant vos éditions, les éditions Xiaopan, alors il y a cette exposition sur l'île Saint-Louis à Paris dont vous parliez, cette expo à la médiathèque de Rodez jusqu'au 31 mars, mais le principal pour vous, c'est des sorties, il y a un programme.
Donc il y a deux albums, les deux prochains albums qui sont prévus, il y en a un qui est une histoire du rocher de Monaco, donc ça n'a rien à voir avec la Chine, c'est complètement atypique, mais c'est un des descendants de la famille Grimaldi et un scénariste, ils étaient tous les deux copains, ils sont venus me voir un jour. En fait, ils traînaient sur le Salon du Livre il y a 2 ans à Paris, et ils cherchaient un dessinateur pour mettre en image une histoire du rocher de Monaco. D'accord. Et puis ils sont arrêtés sur mon stand et puis ils ne sont pas repartis. Voilà, donc on a travaillé sur le projet, le projet est presque fini de dessiner, et normalement l'album devrait sortir fin avril, début mai, le premier album, parce qu'il y aura une trilogie. Et donc, mais dessiné par des Chinois, puisque je n'édite que des albums dessinés par des Chinois. Donc c'est une sorte de croisement franco-monégasco-chinois. C'est assez rigolo. Il y a des choses assez marrantes. Oui, c'est un drôle de cocktail. D'ailleurs, il y a des coquilles qu'on va laisser dans l'album, parce qu'ils ont, il y a une vision de Monaco ou de l'histoire de France, puisque c'est lié aussi à l'histoire de France, qui est parfois un peu particulière ou un peu décalée, mais il y a des choses qu'on va laisser. Il y a des choses que j'ai fait corriger parce que c'était trop gros, mais il y a des choses qu'on va laisser parce que c'est assez fun, en fait. Donc ça, voilà. Et le suivant, c'est un album qui, lui, par contre, est paru en Chine, qui s'appelle Coco en Angleterre, et ce sont les souvenirs d'une jeune artiste chinoise qui, à 15 ans, est partie à Londres, alors qu'elle n'était jamais sortie de son pays, est partie à Londres pour apprendre l'art. Et elle raconte ça sous forme de récit très très proche du blog. C'est un dessin très très simple où elle se caricature à chaque page. Ce sera un gros bouquin, ça fait 360 pages. Donc c'est une histoire complète. C'est paru en 3 tomes en Chine, mais nous on a tout regroupé sous un seul pour en faire un vrai roman graphique. Et c'est très très drôle, très amusant. Donc voilà pour les deux prochaines sorties.
On n'a pas fini d'entendre parler du manhwa, de la bande dessinée chinoise avec Patrick Abri, pionnier et promoteur de cette bande dessinée toute récente. Patrick Abri, directeur des éditions Xiaopan, était l'invité du mag Grand Rodès. Aujourd'hui, c'est déjà fini. Patrick, on aurait pu continuer pendant des heures et des heures. Et j'espère, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se retrouver pour parler ensemble de bande dessinée chinoise. Je vous dis à très bientôt.
Merci, c'était avec grand plaisir et on se revoit quand vous voulez.
Et ben, ça sera très prochainement. Je rappelle une dernière fois l'adresse pour découvrir la bande dessinée chinoise ailleurs qu'à la médiathèque de Rodez, l'adresse de votre site internet www.xiaopan.com, xiaopan.com. Merci Patrick.
Merci à vous.